Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Super Pouvoir pour tous. Je suis Gaëlle Lanne et aujourd'hui ce podcast va parler de 4 poisons qui ruinent votre bien-être et leurs antidotes comme on est orienté solution, n'est-ce pas? Alors, ces 4 poisons, ce sont 4 poisons qu'on prend tous, tout le temps, à tel point d'en être familier et de ne même pas s'en rendre compte. Et pourtant, on peut s'en libérer, c'est non seulement possible, mais en plus ça s'apprend à condition de le vouloir, hein, comme toujours. Et comme il vaut mieux se concentrer sur le bien et laisser mourir le mauvais tout seul plutôt que de se focaliser sur le mauvais pour l'éliminer, mais du coup se focaliser sur le mauvais quand même, eh bien vous trouverez pour chaque poison leurs antidotes à développer. Pour chaque poison et chaque antidote, donc, je vous ai mis aussi des livres que je n'ai pas lus, sauf 2 ou 3. Donc en fait, je ne sais pas s'ils sont bien, mais je vous les mets quand même un peu pour vous dire qu'ils existent, pour si vous voulez aller plus loin. On commence tout de suite par le premier poison qui est la culpabilité. Oui, la culpabilité montre qu'on se rend compte qu'on a merdé et qu'on a de l'empathie, donc on sait discerner le bien du mal, et qu'un petit coup de culpabilité, ça va nous garder dans le droit chemin, donc... Quelque part, c'est un signe de bonne santé mentale, puisque dans le cas contraire, vous êtes un sociopathe. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment besoin de culpabilité pour ça? On se sent trop facilement coupable de penser à soi, de céder à un plaisir, de ne pas passer assez de temps avec ses proches ou d'être impuissant, de voir la personne qu'on a quittée être au fond du trou à cause de nous, alors que non, c'est pas à cause de nous. Alors, on peut se sentir coupable de voir l'autre au fond du trou parce qu'on l'a quitté n'importe comment. Et c'était sans doute possible de faire un moindre carnage, et là c'est autre chose justement. On peut se sentir coupable d'avoir trompé son ou sa partenaire, d'avoir eu une réaction inadaptée avec quelqu'un, d'avoir volé quelque chose, de manger un pauvre agneau malgré le plaisir. Personne n'est infaillible et tout le monde fait des erreurs, même les mieux intentionnés. Et les moins bien intentionnés aussi, hein, mais on va pas bien loin avec un faux départ, donc si c'est votre cas, eh bien révisez votre état d'esprit et vos trucs pas réglés. Tout s'apprend et vous avez le choix de vous améliorer ou pas. Et donc si vous n'en avez pas envie, bien vous gardez vos problèmes et puis vous choisissez aussi ses conséquences. Autre chose, quand quelqu'un meurt, il arrive que les proches se sentent coupables de ne pas avoir su être là au bon moment, d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir écouté l'autre suffisamment. Perdre quelqu'un, c'est suffisamment difficile comme ça, vous n'allez pas en plus vous mettre une culpabilité sur le dos qui va ne faire que vous ronger pour quelque chose d'irrémédiable, donc s'il vous plaît, ménagez-vous. Les antidotes à la culpabilité, il y en a 3. Premièrement, on trouve la connaissance de soi. À partir du moment où vous vous connaissez, où vous connaissez bien vos intentions, vous pouvez plus facilement reconnaître la nature de la situation. Est-ce qu'il s'agit d'une maladresse ou d'un mauvais calcul, d'un conflit intérieur, parce qu'il s'agit tout simplement d'ignorance ou d'un vilain défaut? Est-ce qu'il y a un besoin derrière? En regardant tout ça de plus près, vous apprenez à ne plus vous sentir coupable pour un oui ou pour un non, à faire preuve de recul pour mieux agir et réagir dans le futur. Ensuite, on a la responsabilité, très importante, toujours très importante. Vous êtes responsable de vos actions et de vos paroles. Si vous avez merdé, si vous êtes lâche, eh bien, tirez-en des leçons. Apprenez à vous connaître et assumez-vous et vos désirs aussi. Vous pouvez très bien reconnaître vos erreurs, vos conflits, vos faiblesses, les assumer et travailler dessus sans laisser traîner la culpabilité qui vous les a fait remarquer. À quoi bon? On n'a pas besoin de culpabilité quand on est responsable. Et puis le troisième antidote, c'est le pardon. Apprenez à être indulgent avec vous-même et à vous pardonner. Je sais, c'est facile à dire, mais à partir du moment où vous gardez cette idée en tête, que vous lisez sur le sujet, voire que vous vous faites aider, tout ça va faire son chemin. Donc les livres, par exemple, vous pourrez trouver « Au diable la culpabilité », le petit cahier d'exercice pour vivre libre et cesser de culpabiliser. On trouve ensuite « La culpabilité, l'émotion qui tue ». Responsable, oui, coupable, non. Le pouvoir du pardon radical. Et le don du pardon, que pour le coup j'ai lu, qui est très bien, donc allez-y les yeux fermés. Enfin, bon, vous m'avez compris. Le deuxième poison, c'est la comparaison. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Eux, dans leur couple, ils sont heureux et pas nous, ils se débrouillent bien mieux que moi. Comment elle fait pour manger tant de glace et rester mince alors que moi, je prends 3 kilos au moindre truc? Mes parents avaient déjà 3 enfants à mon âge et moi, je suis toujours célibataire, etc. Donc oui, vous notez que ces comparaisons, elles vont toutes dans le même sens. On peut se comparer à quelqu'un de, soi-disant, mieux, pour se tirer vers le haut. mais le fait est que 9 fois sur 10, se comparer renvoie à une mauvaise image de soi. Et c'est très facile à faire parce qu'on se compare à ce qu'on voit à un instant T, en oubliant le travail qu'il y a derrière la réussite, l'état d'esprit, les habitudes, le temps passé, l'histoire, le contexte. La plupart du temps, en vrai, on compare l'incomparable, il n'y a pas deux humains pareils. On se compare à ce qu'on voit de manière complètement subjective et donc biaisée. Quand j'ai réuni sur Twitter tous les dessinateurs, ou en tout cas une partie que j'aimais bien pour suivre leurs actualités, j'ai juste réuni mon top, qui n'était pas du tout représentatif du milieu de l'illustration. Et face à ce 10%, eh bien oui, je suis une merde. Bon, mais alors quoi, j'ai qu'à bosser pour devenir aussi forte qu'eux. Sauf que, en fait, j'en avais pas envie, ça me parlait pas plus que ça. Donc j'ai arrêté de geindre sur mon soi-disant mon talent, et puis j'ai juste fait ce que j'aimais bien, des trucs simples qui me vont à moi. Dans mon programme de sport, Freeletics, on compare tous nos résultats, mais juste comme ça. Et à aucun moment c'est négatif, puisque chacun est là pour progresser et faire de son mieux. Et surtout, tout le monde galère à son niveau, donc ça reste un super bon esprit. Et vous pouvez calquer ça n'importe où. Comme antidote à la comparaison, premièrement, il y a le fait de se recentrer. Comparez-vous uniquement à vous-même, faites de votre mieux pour être meilleur que la personne que vous étiez hier. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous voulez et ce que vous avez là où vous êtes. Et puis ensuite, le deuxième antidote, c'est se bouger tout simplement. Si vous n'êtes pas content, changez. C'est plus facile de constater qu'on est mauvais que de faire des efforts pour être bon, évidemment. Et c'est rester passif. On n'a rien sans rien, donc sachez vraiment ce que vous voulez, motivez-vous, persévérez et hop. Et pour ça, vous avez le livre « J'arrête de râler ». Changez, oui, c'est possible, et la force est en vous. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut, encore une fois, mais bon, ça allait un peu dans le sujet. Et il se trouve que la comparaison mène aux deux poisons suivants. Le troisième, c'est donc l'autoflagellation. La culpabilité, c'est l'autoflagellation, hein. Quand vous vous sentez coupable de quelque chose, vous vous blâmez pour l'avoir mal fait. Combien se blâment de ne pas être assez ceci ou cela, d'être trop loin d'être parfait? J'en fais partie, hein. Vous trouvez stupide de penser ceci, vous avez honte de cela, et autre bouge-toi, gros tas, et je suis vraiment un gros naze. Bon, c'est pas avec ça qu'on va faire la révolution, hein. Et justement, pour maîtriser assez bien l'autoflagellation, je me permets de dire qu'on ne s'en rend pas toujours compte, voire jamais. Donc oui, je parle pour moi, mais bon, après tout, on n'est jamais tout seul. Et justement, ce sont les autres qui m'en ont fait prendre conscience. Avec des « parle-toi gentiment »,« sois sympa avec toi-même ». Et depuis, j'apprends. Et vraiment, même si j'ai encore du chemin, celui que j'ai fait me change la vie, hein. L'autoflagellation, c'est se faire du mal tout seul, même juste un peu. Donc prenez autoflagellation comme tout venant de vous, qui ne vous fasse pas du bien directement, et on trouve un paquet de trucs. Vous pouvez demander à votre entourage de vous aider à remarquer les fois où vous êtes dur avec vous. Les antidotes de l'autoflagellation, c'est la douceur. Est-ce que vous traiteriez votre enfant chéri ou votre chat comme vous êtes en train de vous traiter vous? Apprenez la tolérance, la gentillesse. C'est chiant de se faire engueuler à longueur de journée. Soyez votre ami. Être cool, ça va pas vous rendre mou et feignant. Encouragez-vous vers vos progrès plutôt que vous défoncer aux reproches. Et puis je rajoute aussi le compliment. Quand vous vous critiquez, et donc que vous en prenez conscience, rajoutez un « mais ». Je suis vraiment moche, mais je suis bienveillant. Je suis vraiment trop con, mais je cuisine bien. Je n'arrive à rien dans la vie, mais au moins, je suis loyal. Pour ça, je vous mets juste le petit cahier d'exercice de bienveillance envers soi-même, parce que les autres, ça va venir avec le poison d'après. Les deux sont voisins, évidemment. Et ce poison d'après, le dernier, c'est le jugement. Alors, il y a plusieurs manières de juger. Il y a le jugement de fait. On reconnaît objectivement qu'il pleut ou qu'une vache est plus grande qu'un chat. C'est vrai ou faux, ça se discute pas. Il y a le jugement de goût. C'est tout simplement ce que vous aimez ou pas. Il n'y a rien à défendre ou à argumenter. Vous aimez ou pas, c'est comme ça, point. Ça se discute pas non plus. J'aime les poireaux. Pourquoi? On s'en fout. Et ensuite, on a le jugement de valeur, qui est purement subjectif, donc comme les goûts, par définition, mais qui désigne un peu comme une vérité si on a affaire à une bonne ou une mauvaise chose. Et par contre, là, ça se discute. L'avortement, c'est abominable parce que ça tue des vies innocentes. Il y en a pour qui c'est une vérité. Moi, j'ai pas mal de trucs à répondre. Et aussi, par exemple, croire que ce qui est évident pour vous l'est aussi pour les autres, ça donne aussi lieu à un jugement de valeur. Elle est meilleure que moi ou je suis meilleure que lui, selon le point de vue. Peut-être que ça se discute pas, mais peut-être en cherchant un peu, sans doute que si. Donc après, on a Robert a mis une cravate ridicule, j'ai une sale gueule aujourd'hui, expliquez-moi pourquoi cette personne garde un monosourcil, c'est un truc de bobo, elle se rend compte de rien, c'est vraiment désespérant, je suis bon à rien et cet enfant est trop gâté. On juge tout le monde, y compris soi-même toute la journée, quel que soit le type de jugement. A-t-on vraiment besoin d'avoir un avis sur tout et de passer tout et n'importe quoi au tribunal? Pourquoi faire? Et qui sommes-nous pour ça? Non, rien. Et personne. Rappelez-vous du deuxième accord Toltec. Ne prenez pas les choses de manière personnelle. C'est-à-dire que quand on vous juge, ça ne dit rien sur vous, mais ça dit sur la personne qui vous juge. Alors logiquement, c'est valable à l'envers. Quand vous jugez, c'est sur vous que ça dit quelque chose. Pas sur le type avec son monosourcil. Et remarquez comme les médias ou les humoristes ne jouent quasiment que là-dessus. On est toujours en train de se moquer de quelqu'un et de le juger. Alors, c'est sûr que c'est parfois plus confortable de tailler les autres que de s'exposer à ses propres failles, hein. Avec des amis, on avait un groupe Facebook de potins, et c'était très marrant jusqu'au jour où j'ai décidé que, bah non, en fait, ça ne l'était pas, et je suis partie. Le groupe n'existe plus, hein, et ceux qui veulent se rachètent un karma. Mais en jugeant, on est forcément en train de froisser quelqu'un qui serait vexé, blessé ou fâché d'entendre ce qui se dit. Et encore une fois, même soi. Et oui, tout le monde le fait, tout le temps, et donc tout le monde trouve ça normal. Décider d'arrêter de juger, c'est ni plus ni moins adopter un autre accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Si ça ne va pas avec vos amis, bah n'alimentez plus ces discussions-là, ou alors changez d'amis. J'ai commencé la pratique de la voix Toltec, dans laquelle il est question de noter tous ses jugements sur son entourage, sur soi-même, etc. Alors on y va, hein, on se défoule tant qu'à faire. Tous les jugements dans un carnet, je l'ai appelé le carnet des horreurs. C'est un sacré recadrage de prendre conscience de la quantité de jugements qu'on émet quand ils sont tous réunis au même endroit et pas dispersés et oubliés dans son quotidien. En remarquant ça, je me suis demandé depuis combien de temps j'étais aussi conne. Autoflagellation, il y a encore du travail. Les antidotes, ça va être la bienveillance. Concentrez-vous sur le bien et souhaitez-le à tout le monde, y compris vous. Même les méchants, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Observez-vous, observez quand ce que vous dites ou pensez n'est pas empreint de bienveillance. Être sympa, ça veut pas dire être con-con, hein. Encore une fois, tout est une question d'intention, donc nourrissez les bonnes. Ensuite, je rajoute la distance. Prenez du recul, observez vos pensées avec le plus d'objectivité possible, et mettez à la poubelle celles qui n'amènent à rien, en vous auto-recadrant. Qu'est-ce que ça peut vous faire? En quoi ça vous regarde que Stéphanie soit en relation libre ou que Denis pèse 100 kilos? Et pour les jugements qui vous concernent directement, mettez-vous à la place de votre chien. Est-ce qu'il vous trouve moche avec vos cernes? Pas sûr. Pour les livres, là, on a « J'arrête de me juger », qui est un cahier d'exercice en 21 jours. On a « Super gentil », le guide de bienveillance au quotidien. Les 4 accords Toltec. La pratique de la voix Toltec et les mots sont des fenêtres, qui est l'introduction à la communication non-violente. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu et qui va vous permettre donc de dépasser ces poisons et d'en faire quelque chose de chouette. En attendant la semaine prochaine, eh bien vous pouvez vous abonner à la newsletter pour recevoir le nouvel article chaque semaine dans votre boîte mail et recevoir à cette même occasion le pack auto-hypnose, donc pour apprendre à vous auto-hypnotiser. Instantanément. Et si vous avez apprécié cet article, eh bien, répandez les bonnes ondes et puis partagez-le avec vos amis. Donc je vous dis à très bientôt, salut !